liste de ce qu'on comprend bien là. Alors, quel est le grand exercice court de ce secrétaire général de la CGT en démissionnant en janvier dernier après deux années seulement à la tête de la Confédération? En fait, la crise de succession remontait à plusieurs années lorsqu'il fallut trouver le successeur de Bernard Thibault. Alors à l'époque, vous vous en souvenez, en 2012, plusieurs candidats et candidats possibles avaient été recalés. Et c'est finalement Thierry Lecomte, assez peu connu et militant, qui avait été investi en novembre 2012, par défaut, comme lui-même l'a dit récemment. Alors à l'automne 2014, donc les fameuses factures de travaux effectuées dans son bureau et dans son appartement, divulguées dans la presse, ont provoqué un scandale. C'est ça qui l'a poussé à démissionner. Et donc le président Martinez lui a succédé, le dirigeant de la Fédération de la Métallurgie. Alors je ne vais pas rentrer du tout dans les détails des factures, hein, elles ont été abondamment citées dans la presse. Mais en tout cas, pour nous, ce que ça révèle quand même, c'est centaines de milliers d'euros pour la rénovation d'un appartement, c'est dizaines de milliers d'euros pour la rénovation d'un bureau, ce salaire de plusieurs milliers d'euros qui est versé quand même chaque mois, bah, ça montre que finalement, le niveau de vie des dirigeants de la CGT, c'est plus celui de cadre supérieur, bien sûr, qui est en dessous. Des bourgeois évidemment, mais en tout cas bien au-dessus de celui des travailleurs, hein, et même des militants de la CGT, qui d'ailleurs bien souvent voient leur propre salaire bloqué du fait justement de leur engagement syndical. Alors bien sûr, on partageait l'indignation des militants devant ces chiffres. Alors, ce que ça met donc en lumière, c'est le décalage qui existe entre ces dirigeants qui ont l'habitude des négociations, qui ont l'habitude des bureaux, des ministères et qui se sentent bien intégrés finalement à tout ce petit monde. Donc quand même, pour rappeler qu'il est le temps avant d'être à la tête de la CGT, il était membre du Conseil économique, social et environnemental, qui est vraiment un organisme de collaboration entre les représentants des syndicats et ceux des patrons, et absolument rien de révolutionnaire comme organisme. Alors évidemment, la campagne assez faite qui a été faite par certains milieux journalistiques et patronaux, quand un journal particulièrement réactionnaire, anticommuniste comme le Figaro, voyez lui dans cette liste, la main des transcrits, je le cite quand même, il disait à l'époque que c'était une stratégie savamment orchestrée et préparée pour déstabiliser l'exécutif de la centrale, parvenir à insuffler une ligne plus révolutionnaire, plus contestataire et plus radicale à la tête du premier syndicat de France. Bon, évidemment, ça prête presque à sourire, mais en réalité, à l'issue de tous ces fantasmes, la crise de succession à la tête de la CGT, elle reflète plutôt un affrontement entre plusieurs clans, pour ne pas dire entre plusieurs pays, au sein de la direction de la centrale, clans qui n'ont vraiment rien de révolutionnaire, ni les uns, ni les autres. Parce que finalement, on n'a jamais entendu qu'il s'agissait d'un affrontement sur les objectifs de la centrale syndicale, sur le fait de distinguer qu'est-ce qui était le mieux dans la période d'offensive anti-ouvrière du gouvernement pour se préparer, pour riposter. Donc finalement, toutes ces manœuvres au sein de l'appareil, pour savoir quels plans s'imposeraient, quelles personnes s'imposeraient par rapport aux autres. Finalement, la meilleure démonstration, c'est qu'au moment où la guerre de succession faisait rage, l'accord finalement de tous ces plans, c'était pour défiler le 11 janvier dernier comme un seul homme derrière Hollande, c'est-à-dire finalement derrière le gouvernement, l'unité, entre guillemets, retrouvée de la CGT, ça a été pour la mettre au service du gouvernement Hollande dans son opération politique après les attentats à Charlie Hebdo. Alors donc, ce n'est pas une révélation, c'est Philippe Martinez qui a pris le relais, qui a été élu le 3 février. Alors, c'est vrai que dès son arrivée à la tête de la centrale, il a usé d'un langage qui peut, à bon compte, paraître plus radical que celui de ses prédécesseurs. Je crois que je cite dans ces quelques mots, donc il disait on va réoccuper notre pièce, celui du social, de la contestation. Il ajoutait aussi évidemment de la proposition. Il ajoutait que la CGT allait à nouveau incarner un syndicalisme de classe, de masse. Bon, alors, dans les faits, c'est vrai que ça a été finalement le premier dirigeant à avoir appelé à une journée d'action nationale interprofessionnelle le 9 avril contre la loi Macron. Un véritable arsenal anti-ouvrier, j'y reviendrai, qui n'a été suivi par les autres centrales. Enfin, puisque représente la loi Macron, justement, comme attaque, c'était quand même bien le minimum de proposer une journée d'action, et de toute façon, cette journée d'action, elle n'était même pas planifiée comme le début d'une préparation sérieuse à la riposte qui serait nécessaire aujourd'hui. Alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que, c'est pas indifférent au sujet, après son élection en 2012, Hollande, pour vous souvenez, il avait mis en avant sa méthode à lui, qui prétendue dialogue social, et c'est ça qui a permis quand même aux confédérations syndicales CGT d'accompagner la politique ouvrière des premières années du quinquennat de Hollande sans faire trop de vagues. C'est quand même beaucoup de manifestations ces premières années. Alors c'est sûr que ça pouvait apparaître comme étant un peu du changement par rapport à Sarkozy, qui lui tenait à montrer à son électorat qu'il n'avait rien à faire des manifestations. Là, vous vous souvenez des grandes manifestations sur les retraites, tenait à montrer que ça ne faisait pas changer d'aviota. Du coup, ça a permis à Hollande de se donner l'apparence du changement, en associant les confédérations dans des grandes discussions, des grandes négociations, donc entre les syndicats et le MEDEF. Mais finalement, la forme a changé, le fond lui changeait peu, parce que la couleur quand même de ces grandes négociations, je vous rappelle, c'est quand même dans le cadre du redressement des comptes publics pour l'amélioration de la compétitivité, ça voulait dire quand même finalement, dans le cadre d'une politique au service du grand patronat et en ça dans la continuité vraiment de celle de Sarkozy et consorts. Et dans toute cette période, finalement, il y a eu une multiplication d'attaques contre les travailleurs, les revendications de la CGT sont restées finalement quand même dans le fond. Il n'y a que au moment de la discussion sur l'ALI, l'accord national interprofessionnel, et donc plus récemment sur la loi Macron, qu'on a entendu une protestation un petit peu plus vive de la CGT. Finalement, même si la CGT n'a pas signé la plupart des accords de régression sociale, dans un contexte général de démoralisation, la direction de la CGT s'est quand même adaptée à l'ambiance morose, contribuant à démoraliser ses propres militants, y compris ceux qui sont les plus combatifs et les plus conscients. Alors, un autre aspect de la politique, quand même, des gouvernements actuels, mais c'est dans la continuité des précédents quand même, c'est de privilégier la négociation entreprise par entreprise, avec un double avantage quand même, parce que finalement, tout ce qui peut paraître général ou unitaire dans une loi qui concerne tout le monde, dans les petites entreprises, là où les travailleurs ont le moins la possibilité de se défendre, ça tend à disparaître. Et puis l'autre aspect, c'est quand même que les militants syndicaux sont complètement absorbés dans des réunions incessantes avec les directions de leur entreprise. Et finalement, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, au lieu de préparer la riposte façon en quelque sorte, il les entendit parce qu'ils n'ont pas bien les moyens de faire autre chose que d'accepter dans une période où il n'y a pas de mobilisation. Deux petits exemples aussi pour illustrer la manière dont la CGT tient dans la période actuelle dont elle revendique d'être traitée un peu comme un partenaire social comme un autre. Par exemple, elle a revendiqué d'avoir toute sa place dans ces négociations puisqu'elle avait appelé à voter Hollande en 2012. Voilà, donc là déjà, c'était quand même un début de désarmement féminin parce que ça voudrait quelque chose à attendre de Hollande arrivant au pouvoir. Et dans un deuxième temps, quand même, dans le début des négociations sur l'accord national interprofessionnel, elle n'a pas fait beaucoup de table des négociations et là aussi, elle a laissé entendre qu'on allait pouvoir tirer quelque chose de ces discussions. Hein, il n'y a que vraiment quand il y a eu à en tirer, elle en est sortie en plus enseignée. Il y a eu deux manifestations en 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était au moment où les députés transcrivaient cet accord dans la loi et c'était pour demander aux députés de ne pas voter la loi. Bon, là aussi, on peut dire que ce soit sur la voie de la mobilisation, des illusions sur le fait que les députés pouvaient ne pas voter cette loi. Alors, en fait, le problème, dans la période actuelle, c'est pas qu'on n'a pas besoin de partenaires sociaux pour autre chose que leur faire accepter des droits. La seule limite qu'ils connaîtront en réalité, c'est celle que la mobilisation des travailleurs leur imposeront. Aujourd'hui, ils se sont vraiment en position de force et des attaques dans toutes les directions, à la fois sur la durée du travail, sur les salaires, sur les conditions de travail. La mise en cause du repos du dimanche a été un des aspects un peu médiatiques de la dernière période, mais c'est vraiment un aspect. Ça s'accompagne en fait d'une offensive générale beaucoup plus importante contre les horaires de travail pour imposer une flexibilité accrue et une organisationnelle. La semaine dernière, la mobilisation dans le quotidien, là, vous êtes sur la remise en cause de la porte des 35 heures. Donc ça va vraiment assez loin. Alors, mais on a donc appelé à manifester contre cette loi le 9 avril dernier. C'est quand même un arsenal assez rétrograde qui permet de faciliter encore les licenciements collectifs. Alors tout ça, pour rappel, ça c'est toujours au nom du maintien de l'emploi. Hein, on vous explique quand même sur tous les temps, c'est en favorisant les licenciements qu'on va pouvoir embaucher. Pendant que le père, par exemple, ont négocié les patrons avec certains contrats. Zéro gouvernance, même pas, un nombre d'heures que vous avez travaillé, pour lequel vous serez payé. Tout ça vous donne quand même un petit peu une indication de la loi dans laquelle vous entraînez les patrons. Alors, dernière attaque, dans l'évolution des droits sociaux des travailleurs, c'est la loi de Rennes-Saint-Denis, prétendument de modernisation du dialogue social. Bon, alors lui, il propose de rien moins que moderniser les personnels, les CHSCT, bref, en restreignant encore plus les quelques droits collectifs et la représentation des travailleurs dans l'entreprise. Ça veut dire quand même que les salariés qui étaient protégés jusque-là dans l'entreprise par leur mandat de délégation personnelle, ça veut dire, alors pour obtenir ça, ils lâchent quand même les patrons indiqués aux autres syndicats, c'est que comme ils auraient le même nombre de mandats et d'heures de délégation, ça leur permettrait de pouvoir avoir un certain nombre de délégués centraux, c'est-à-dire de quasi permanent quand même, de donner une raison, ça équaturerait encore plus parce que les travailleurs durant. Sans compter que ça aussi compromis dans des réunions incessantes qu'on leur peut décider. Alors c'est vrai que dans cette période offensive anti-ouvrière, on mesure à quel point les confédérations syndicales CGT comprises sont clairement incapables de défendre les travailleurs, d'empêcher cette agression générale exigée par un patronat avis de maintenir ou d'augmenter ses profits. Finalement, ça révèle l'endémie de leur point dans la société, en dépit de cette place d'interlocuteur officiel et public. Les syndicats, ils sont considérés comme un simple rouage des institutions bourgeoises aujourd'hui. Finalement, la grande confédération syndicale, la CGT, œuvre au maintien de l'emploi social, telle qu'il est. Alors, on peut même dire que ça a commencé dès 1914, la manifestation la plus visible de l'intégration des syndicats, ça a été leur participation à l'Union sacrée au moment de la guerre. Mais d'un autre côté, pour ce qui est de la CGT en particulier, c'est bien, la classe ouvrière, son réel, j'y reviendrai, elle a aussi quand même besoin d'animer et de diriger des luttes. Alors, justement, je développe un peu cet aspect, c'est-à-dire le fait que pour nous, la CGT, c'est quand même un syndicat à part des autres confédérations qui existent aujourd'hui. C'est son passé, c'est-à-dire son lien, c'est avec l'URSS. C'est-à-dire le fait que l'indépendance a été quand même une ombre de Staline. Le fait que quand la guerre froide a commencé, quand les intérêts de Staline et ceux de l'impérialiste ont divergé, le Parti communiste a eu une attitude plus compatible par rapport à l'État français. Finalement, ces militants, ils étaient participants très radicaux et ils se retrouvaient à ce moment-là dans la CGT. Finalement, ce lien avec l'URSS qui a préservé pendant un temps la CGT des pressions bourgeoises de ces autres confédérations syndicales et qui leur permettait à la CGT de garder une certaine base sociale. Mais quand ces liens avec ont disparu avec elles-mêmes, c'est vrai que ces forces sociales sur le PC et donc sur la CGT, ces forces donc qui l'a poussé dans une direction réformiste pesaient d'autant plus fortement. Et c'est vrai que ce poids quand même de l'appareil statutaire, de l'appareil du PC, la CGT connaît les mêmes luttes d'appareil qu'on connaît aujourd'hui bien d'autres syndicats. Le problème, c'est qu'il faut quand même aussi garder une certaine influence parmi les travailleurs. Elle s'appuie sur son propre passé, on joue un rôle un peu plus radical. Elle a un langage plus radical que le syndicat, bien entendu. Elle a aussi un rôle un peu différent, elle ne signe pas tous les accords. Et finalement, ce passé que là,
Quand même le micro se déplace pas. Now, associée peut-être à la Parti communiste et la CGT.
Et qu'il va pouvoir en sortir quelque chose.
Bon, mais ça peut changer assez vite. Donc on pense ça, donc encore une fois, c'est pour moi c'est pas trop d'un lui-même avec son habileté, avec sa force, avec son arrogance. Le coup de trop qui sera débordé quand même, ce prix qu'on compte, comme dit ça, il y a la résignation, le sentiment qu'on ne peut rien faire, il y a quand même le sentiment de justice.
Devant
leur monde, c'est quand même celui de la bourgeoisie, de l'État, des patrons,
Alors, moi, je voudrais dire,
l'école, par exemple, de l'appartement de la France. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt se poser une question si on veut vraiment se rapprocher du groupe ouvrier, que mon ami fasse confiance aux syndicats, qu'il y ait des combats dans les congrès pour que les statuts soient modifiés, peut-être pas pour ces gens-là. Je veux dire que c'est des questions concrètes, hein, que ces gens-là reviennent au code de travail un jour ou un autre. Que ces gens-là n'ont pas dit c'est valable pour Magny, c'est valable pour Chérec, c'est valable pour tout le monde. Est-ce qu'il y a encore un combat à mener dans les syndicats pour faire de telle façon que ça, c'est qu'un syndicat les cache pour l'autre, les gens-là, ils prennent au point de travail.
Le reste,
c'est
structurel, c'est-à-dire en fait, le syndicat a assigné à ce que ça
des moyens de les compter la question qui pose considération, on a les moyens de faire que la considération elle est d'autres là, bon, voilà simplement à notre petite échelle la démonstration que peuvent faire nos camarades syndicalement, hein, c'est qu'ils sont évidemment de carrière, c'est qu'ils sont le plus possible
religieux
Thank you.
la France est un pays où on a beaucoup de syndicalisation, il y a des mains, il y a des mains, il y a des mains.
Dans une usine, ça marche.
si on organise des réunions dans un atelier pour aller porter une revendication, si on dit on se met tous ensemble, on le fait, ça marche. Et les réformistes, ils n'iront pas ça. Ils vont passer par l'appareil, voilà. La différence est là, c'est pour ça que nous, si on a des responsabilités dans les syndicats, c'est pas pour monter dans l'appareil, mais c'est pour essayer de donner confiance aux travailleurs pour qu'ils s'organisent et pour qu'ils portent leurs revendications, qu'ils les défendent directement. Bon, et ce boulot-là, on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités très hautes dans l'appareil pour le faire, et de toute façon, l'appareil, on ne le changera pas. On ne le changera que quand il y aura une mobilisation importante des travailleurs à la base. C'est là qu'on pourra donner un grand degré dans l'appareil. Sinon, avant, lui-même, il vivra sa vie, l'appareil. Il n'y a pas besoin d'élection, l'appareil, pour dire. Il y a besoin des subventions d'avoir choisi. Et il est là. Et donc, il continue. Il n'a pas besoin d'élection. En tout cas, on peut conclure, parce que de toute façon, il va peut-être falloir arrêter là, et ça n'empêche pas. Dont je parlais dans le topo, elle date donc de plus d'un siècle, elle s'est même perfectionnée à différents moments, donc effectivement maintenant les syndicats ils n'ont même plus des cotisations de leurs syndiqués, mais de tout un tas de postes, de signatures que leur octroie la bourgeoisie en ce moment, mais c'est un peu de choses à leur donner. Dans cette période-là. Voilà, je vous remercie.